La libération sexuelle dans l'Allemagne de Weimar à l'origine d'une perception différente de sexualité. En effet, avec l'Allemagne de Weimar coïncide aussi l'émergence de la sexologie, qui est une science assez récente et dont un pionnier fut Magnus Hirschfeld. D'ailleurs, nous avons déjà fait une conférence
sur Magnus Hirschfeld.
Et Magnus Hirschfeld, c'était le premier à étudier la sexualité humaine, les sexualités sur des bases scientifiques. Alors, ces recherches peuvent être considérées comme une vraie révolution. Elles ont permis une approche juste et objective de la diversité des sexualités et des genres. Et cela reste toujours d'actualité. Deux mots sur Patrick Cabron. Il se distingue dans le mouvement LGBT par une approche intersectionnelle, sexe, genre, classe, race, culturelle et historique. Il a animé un festival de films à Lille, on a pris l'histoire de questions de genre et continué à publier des textes rares dans la maison d'édition Questions de genre chez KC, c'est-à-dire Gay Kitsch Camp. Il a commencé ses études à Aix-en-Provence, où il obtient un diplôme de sciences politiques et un doctorat de lettres consacré à Marc-André Afanovitch. Un pionnier de LGBT studies. Il n'a cessé depuis d'exploiter cette veine en insistant sur la part allemande. Il republie le troisième sexe, les homosexuels de Berlin, de Sirchel, le lesbienne de Berlin, de Emmerich, et fait découvrir le film de Richard Oswald, Alice Allemand, alors ça peut être traduit de différents des autres. Alors je tiens à remercier le Parti français de nous accueillir à nouveau, ainsi qu'Aix-Mangard et l'association Mémoire de sexualité Marseille et plus particulièrement mon ami Christian Deleuze pour ces nouvelles conventions. Voilà, une immense à vous.
Ah bon, mais je te remercie aussi les mêmes gens.
Oui, hein,
je suis content de revenir dans cette ville où j'ai fait mes premiers pas, de retrouver d'anciens amis, d'anciennes amies, et pas seulement des amis, mais des gens avec qui j'ai vécu de manière très étroitement, d'une manière très passionnée, y compris dans les projets. Je m'étais aussi présenté comme tout simplement homosexuel avec une dame dont le nom m'échappe, et en 1981, aux législatives, voilà, homosexuel, c'était un programme. Et donc, on avait mis alternative homosexuelle, quelque chose comme ça, et on avait, aux législatives, eu 0,87% des voix. Et pour la plupart des gens, homosexuel, ça voulait dire, dans Libération, il y avait eu une grande page, et ils disaient, oui, le monde sera homosexuel ou ne sera pas. Donc, évidemment, ça voulait rien dire pour les gens. Mais pour nous, ça voulait dire un monde où il n'y aurait pas de discrimination. Merci.
Oui, juste deux mots de plus. Premièrement, je suis très content d'avoir pu être un peu le catalyseur pour la mise en commun d'un côté de Patrick Cardon qui vient déjà de se présenter et que moi j'ai connu à cette époque-là comme quelques-uns d'entre vous, visiblement, époque où je me trouvais au GLH de Marseille. Et lui, il était un des animateurs du mouvement homosexuel sur Aix. Nous étions un peu en conflit les uns avec les autres, mais c'est une autre question, une autre histoire, et nous vous en parlerons si ça vous intéresse un jour ou l'autre.
Non, on va rapidement, c'est important par rapport à Weimar aussi, c'est que, donc, à Aix-en-Provence, on était des étudiants un peu snobs, et à Marseille, c'était des ouvriers, donc ils défendaient la lutte de classe, ils étaient du côté des ouvriers en grève, etc. Tandis que nous, non, on était pour les terroristes, enfin, on défendait Septembre Noir, on était des étudiants, et donc, on considérait que les gens n'étaient pas assez féministes, on trouvait que les PD étaient un peu trop masculinistes et virils, et donc on avait décidé à un moment donné de s'appeler par exemple Mouvance Folle Lesbienne. On avait féminisé Mouvement en Mouvance et Folle Lesbienne, c'est-à-dire les folles ensemble. On ne recherchait pas un mec, on ne faisait pas la caricature comme on dit d'hétérosexualité. On est revenu de tout ça, mais pour l'instant, à cette époque-là, c'était ça. Donc Mouvance Folle Lesbienne avait fait un centre culturel, c'était la culture qui nous intéressait plus, parce qu'on était snob et cultivé étudiant, alors que les ouvriers s'intéressaient simplement à l'égalité des droits.
Bon. C'est la façon de Patrick de voir les choses, mais comme je vous dis, il y aurait tout un débat à faire. Nous étions effectivement beaucoup plus des militants politique globalement à l'intérieur du mouvement homosexuel.
Non, vous parce que BD, nous étions des folles.
Parce que c'est vrai que la culture militante des syndicats, des partis politiques a aidé à la constitution du premier GLH à Marseille, pas du premier puisqu'il y avait déjà le GLH à Paris, etc., etc., mais un des premiers. Cette première chose, j'ai pas besoin de présenter Patrick, il s'est largement présenté lui-même, et Joachim l'a fait aussi. Merci aussi à Joachim, comme il l'a dit, nous faisons comme ça de loin en loin du travail ensemble. Nous avons fait effectivement il y a 3 ans une conférence sur le maintien sexuel à Marseille, et donc nouvelle occasion. Enfin, je voulais dire pourquoi ce débat-là à ce moment-là. En réalité, il était programmé à Marseille la semaine dernière et cette semaine deux débats. Donc le deuxième, c'est la même chose que ce que va vous dire Patrick maintenant. Mais le premier, c'était sur la déportation des homosexuels. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans le mois qui a quelque chose à voir avec ce sujet-là. Donc le 24 avril a lieu la cérémonie de la déportation, en général. Et en particulier, moi-même à Marseille, depuis 1995, je m'occupe du dépôt de la gerbe des homosexuels dans le cadre de la cérémonie officielle. Je ne sais pas si quelque chose va se passer à Aix-en-Provence. En tout cas, à nouveau, nous allons le faire à Marseille le 24 avril. C'est le dimanche 24 avril à 11h, pour ceux qui auront l'opportunité d'être à Marseille à ce moment-là. Voilà, merci. Ah, place Lavienne, derrière la mairie. Ce n'est que depuis quelques années que nous sommes autorisés à déposer la gerbe dans le cadre de la cérémonie officielle. Ça a été un long combat. Allez Patrick, vas-y.
Bon, alors, c'est pas évident de tenir une conférence. Merci d'être venu aussi nombreux. Franchement, j'y croyais pas du tout. C'est un sujet un peu pointu. En même temps, bon, il y a des militants homosexuels, je suppose, et puis aussi des gens du Café Citoyen. C'est un café que je connais un peu parce que lors d'une fin de Gay Pride, je suis venu, et puis j'aime beaucoup ce type d'initiative. Bon, alors, c'est un peu difficile d'avoir des connaissances, donc je viens avec des papiers. Pour les idées, il n'y a pas de problème. Mais pour les connaissances, donc, vous me verrez lire de temps en temps. On va commencer. Donc, c'est la situation politique de Weimar. Que dire ? Il n'y a pas d'un côté la fin de la Première Guerre mondiale, d'un autre côté une permissivité entre les deux guerres, et puis ensuite Hitler, dont on parle beaucoup trop, et puis les libérations, etc. Weimar, c'est quelque chose qui aurait été possible, et c'est pas évident, parce que beaucoup de gens, évidemment, se sont dit avec la décadence, enfin le plaisir et les libertés que se sont donné le peuple allemand à ce moment-là, c'est ça qui a fait que, parce que Hitler, c'est ce qu'il va dire, que c'est enjuivé, que c'est efféminé, et les deux termes allaient ensemble, et ça a amené une décadence qui fait que, etc. Bien sûr, c'est des raisons économiques qui vont faire que ça va se passer de cette façon-là, mais ce qui est intéressant dans l'époque de Weimar, c'est qu'elle donne une idée de ce qu'une société libre aurait pu continuer d'être, et qu'on a essayé de peut-être refaire dans les années 70 jusque maintenant. L'intérêt pour moi de travailler sur l'Allemagne, comme je l'ai fait, c'était que pendant longtemps, les années 70, le mouvement gay et lesbien s'est inspiré de Stonewall, c'est-à-dire, vous vous rappelez, c'est l'occasion à chaque anniversaire de célébrer cet anniversaire lors des Gay Pride. Stonewall, un cabaret, ça c'est Weimar qui me fait dire ça, mais c'est une boîte de BD et de folles, donc les folles sont emmenées par la police à New York. Le bar s'appelle Stonewall, devenu une espèce de monument historique depuis très peu de temps. Et un peu comme le 1er mai, les références sont américaines, parce que l'Amérique, c'est la liberté. On se rappellera quand même que l'apartheid des Noirs aux États-Unis, c'était assez tard, jusque assez tard, que, évidemment, l'Allemagne aurait pu être un modèle. Weimar aurait pu être un modèle de liberté, mais ça ne l'a pas été à cause du nazisme, comme n'a pas pu l'être l'époque de liberté qu'a vécu plus ou moins formellement la Russie avec la révolution de 1917 à cause du stalinisme. Mais enfin, ce n'est pas une justification. C'est ce qu'on pourrait très bien dire, bah oui, mais dans les années 70, c'était le Vietnam, c'était encore l'apartheid. Donc il y a d'autres raisons qui font que le modèle américain a été celui qui s'est imposé, tout simplement parce qu'on nous a imposé le modèle américain. Le modèle allemand, eh bien, quelques-uns peut-être suivi cette conférence sur Magnus Hirschfeld, mais le modèle allemand est aussi intéressant. Donc c'est ce à quoi je voulais m'atteler maintenant. Un récent livre vient de dire que l'homosexualité... Enfin, je ne sais pas pourquoi je parle d'homosexualité tout de suite, parce que là on parle de libération sexuelle. Mais il faut dire que le rôle de l'homosexualité est important pour la libération sexuelle. À l'époque, c'était comme ça. Parce que ça va amener des questionnements sur qu'est-ce que c'est que le sexuel, qu'est-ce que c'est que un homosexuel, qu'est-ce que c'est qu'un hétérosexuel. Les deux termes vont être inventé par un Hongrois, parce que si on parle de Weimar, on parle aussi de l'Allemagne, mais on parle aussi de toute la culture germanique. Donc c'est aussi la Tchécoslovaquie, la Hongrie, même un peu plus loin, mais on va rester dans cette géographie-là. Donc le mot homosexuel est, bon ben là je vais reprendre le terme, donc est inventé par un Hongrois, qui s'appelle Kurt Benny, ou Ben Kurt, parce qu'ils utilisaient aussi des pseudonymes. Mais déjà, quelqu'un comme Karl Heinrich Ulrichs, 1825-1895, toutes ces dates sont importantes, c'est pour ça que c'est très difficile pour moi de faire quelque chose, puisque on est dans une période très courte d'Weimar. Là, je vais prendre les ancêtres. Il n'y a pas eu tellement de différence entre avant Première Guerre mondiale et entre les deux guerres mondiales. Tout simplement parce que, vous savez, l'Allemagne n'a pas été occupée, et que même l'abdication du Kaiser s'est fait avant la première, avant je pense, enfin j'aimerais bien qu'on corrige, avant la défaite allemande, et qu'une constituante s'est faite en Allemagne avant la défaite, encore une fois, c'est-à-dire qu'il y avait une préparation à une autre Allemagne plus démocratique. Et après la défaite, donc il y aura toute une période révolutionnaire avec les Spartakistes qui sont inspirés par la révolution russe. Il y a aussi les socialistes qui préfèrent être élus, avoir une représentation, pas de révolution, mais on est dans une période de 1919 à 1924 qui est très 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 trouble. Donc si on parle de la République de Weimar, là j'ai plus de papier, je me lance, tant pis. Si on parle de la République de Weimar, c'est parce qu'il y avait trop de troubles à Berlin, on était en train de fusiller les Spartakistes pour rétablir l'ordre, et la constituante et la constitution de ce qu'on va appeler la constitution de Weimar se fera donc à Weimar et non pas à Berlin. Mais évidemment, c'est à Berlin où il va se passer plein de choses. Et quand je dis plein de choses, c'est-à-dire des discours scientifiques par rapport au terme de l'homosexualité, mais aussi des manifestations populaires, des cabarets, et beaucoup d'homosexuels y vont se manifester, des intellectuels aussi, tout simplement parce que la censure n'existe plus. Aussi bien la censure cinématographique que la censure sur les bouquins. Ce qui n'empêche pas qu'en même temps, donc ce que je disais, c'est qu'il n'y a pas d'un côté un régime autoritaire et ensuite un régime laxiste, en même temps, dans cette période-là, vous avez la création du parti nazi, de la NSDAP, en 1920. Vous avez Mein Kampf, qui sortira, je ne pense pas que ce soit le roman de gare ou le livre de poche de l'époque, mais quand même, c'est dans les mêmes dates. Vous avez aussi, dans cette période-là, Mussolini, en Italie. Donc, toute l'Europe est en train de changer. Et c'est, on va appeler les nouveaux hommes, les nouvelles femmes. C'est comme si Weimar était le laboratoire d'une autre façon de vivre. Donc pour le... J'ai une petite partie qui s'appelle Les Ancêtres, mais Rafalovitch, sur lequel j'ai travaillé, qui est un écrivain russe qui s'est réfugié en Angleterre, mais qui a publié des choses intéressantes et qui a un rapport avec Magnus Hirschfeld, parce qu'il va initier les premières études homosexuelles, ce qu'on appelle, parce que ça fait là aussi la référence américaine, les gay studies, les lesbian studies, les queer studies, etc. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de faire un peu plus que ce que faisaient les militants à l'époque. Genre, oui, les homosexuels ne sont pas forcément des gens efféminés, c'est pas forcément des traîtres, c'est pas forcément des gens sans intérêt, puisque, et alors vous avez tout le panthéon des grands empereurs, César, quoi d'autre encore, enfin les gens avaient besoin de cette légitimation-là. Là, Rafalovitch, au sein des archives d'anthropologie criminelle du docteur Lacassagne de Lyon, va écrire des chroniques régulières en parlant des poètes, en parlant des écrivains, en parlant aussi des petites annonces. Donc on parle de la littérature populaire, de la littérature scientifique et de la littérature littéraire. Tout ce qui peut avoir un intérêt sur l'homosexualité. Il parle par exemple de Walt Whitman, de son enterrement. Walt Whitman, ça avait été un scandale lorsqu'il est mort, que donc des gens disaient le pauvre poète qui est mort, etc. Alors que les autres disaient, mais oui, mais Walt Whitman, c'était quand même quelqu'un qui non seulement faisait l'apothéose de la camaraderie, mais aussi de la camaraderie érotique, il ne faut pas l'oublier. Et lorsqu'il est mort, le scandale est sur cette anecdote-là. Ses amants et ses amis ont organisé une pompe funèbre assez amusante en mangeant des pastèques, exactement comment ils faisaient lorsqu'ils se rencontraient régulièrement avec le poète en question. Je vous parle de Walt Whitman. Ce qui concerne le mot, dont je vous ai dit que ça avait été inventé par Karl Benny, un Hongrois, un avocat, et un autre avocat qui s'appelle Karl Heinrich Ulrich. Donc lui, il publie en 1864 et en 1865, sous le pseudonyme de Numa Numensis, 5 volumes d'essais sous le titre « L'énigme de l'amour entre hommes ». Il lance une théorie biologique du troisième sexe. C'est important parce que cette théorie va être reprise longtemps, contredite ensuite, mais ça posait la question de savoir si on était homosexuel d'une manière innée ou si on était homosexuel d'une manière acquise. Écoutez, je vous parle de tout ça, mais je voudrais quand même que vous pensiez que lorsque je dis homosexuel, je pense à tout le monde. Alors, c'était quoi l'enjeu? L'enjeu, c'était la responsabilité, parce que tout ça, c'était délictuel. Vous avez un paragraphe prussien qui est devenu, lors de la déclaration de l'Empire en France, de l'Empire allemand, le paragraphe 175. Et ce paragraphe 175 condamnait tout rapport contre nature entre hommes. Et donc, si vous étiez malade, vous ne pouviez pas être condamné, alors que si on considérait que c'était acquis, vous étiez considéré comme quelqu'un de pervers. Soit vous n'aimiez plus les femmes, soit vous pervertissiez les jeunes hommes, et à ce moment-là, vous étiez passible d'un certain nombre d'années de prison et d'amende. Donc ce Ulrich, il est un des premiers à parler positivement et scientifiquement au sens des sciences humaines de l'attirance sexuelle entre personnes de même sexe. Les mots homosexuel et hétérosexuel n'apparaissant qu'à partir de 1869, il parle de type ou de personnalité uranien ou dionysien. Donc ici, vous avez les uraniens qui sont les homosexuels d'aujourd'hui et les dionysiens qui sont les hétérosexuels d'aujourd'hui. Enfin d'aujourd'hui, on en parlera tout à l'heure. Il continue de publier cette fois sous son vrai nom, ce qui par la même tente à rendre son orientation sexuelle publique. En 1866, la Prusse de Bismarck envahit et annexe le royaume de Hanovre. Ulrich s'est alors accusé d'activités subversives et emprisonné. Ses écrits sont saisis, ainsi considérés comme le premier homosexuel à avoir fait son coming out en août 1869. Peu après sa sortie de prison, il intervient publiquement en tant qu'homosexuel au congrès des juristes allemands à Munich pour leur demander de ne pas faire entrer, avec le paragraphe 175 du code pénal allemand, les lois propres au code prussien qui répriment la sodomie, entre autres. Bon, voici le premier personnage. Le deuxième, qui est à peu près de la même génération et dont j'ai déjà parlé, donc, c'est Karl Maria Karl Benny, qui est un journaliste, écrivain, traducteur et militant des droits de l'homme hongrois, Jean Malcolm. On retrouvera souvent cette préoccupation des droits de l'homme en ce qui concerne les homosexuels, ce qui a été assez récent dans le mouvement homosexuel contemporain. Il forgera les termes allemands homosexual et hétérosexual en 1868 et homosexualité en 1869, auquel il opposa le terme qui sera repris par Hirschfeld aussi, de normal sexuel, et qui aujourd'hui est traduit par cisgenre. Ça vous dit quelque chose? Quelqu'un qui est né homme et qui se trouve bien en tant qu'homme. C'est un nouveau vocabulaire né des transgenres, des transsexuels. Pour ne pas dire hétérosexuel ou normal, on dit il est cis. Bon, le troisième que je mettrai dans les ancêtres, c'est un certain Benedict Friedländer, puisque en fait il est mort en 1908. Il a travaillé avec Magnus Hirschfeld, mais il a fait sécession. Avec un livre qui s'appelle Renaissance de l'Eros Uranios, donc c'est Eros Uranios, c'est aussi le nom pour l'homosexualité, en 1904. Il maintient son adhésion à l'association de Magnus Hirschfeld jusqu'en 1906, année où il quittera Hirschfeld et fonda une troisième organisation gay, intitulée d'abord Sécession du WHK, puis Ligue pour la culture virile, qui ne survivra pas au suicide de son promoteur le 21 juin 1908. Alors cette sécession, c'est important, c'est-à-dire que d'un côté, bon évidemment, vous aviez les cabarets, les gens qui dansaient, qui se travestissaient, vous aviez des danseuses nues, enfin c'était une liberté assez extraordinaire et sans censure, du théâtre homosexuel, du cinéma homosexuel. Même en 1919, c'est le premier film militant homosexuel, mais il y aura d'autres films que je citerai tout à l'heure, c'est-à-dire non seulement une culture populaire, mais aussi une culture cinématographique, mais évidemment c'était aussi la naissance du cinéma de propagande. On faisait du cinéma pour l'éducation sexuelle, et c'est à l'intérieur de cette série de cinéma d'éducation sexuelle que Hirschfeld va faire une partie qui s'appellera, comme l'a dit M. Rothacker, Anders at the Underrun, avec des personnages assez intéressants, des acteurs assez intéressants, parce que ils vont devenir des artistes aux États-Unis connus, ainsi que des réalisateurs. Si c'est la première, c'est Ulrich, voilà.
Et celui-là, c'est Carbeny.
Bon, c'est un peu embêtant, de toute façon, je ne vais pas pouvoir parler de Weimar, mais c'est quand même important de vous dire que Weimar, c'est simplement quelque chose qui existe avant et qui a été libéré par les censures qui n'existaient plus. Alors, par exemple, Octave Mirbeau, je ne sais pas si vous connaissez Octave Mirbeau, un écrivain français, qui a écrit un bouquin qui s'appelle la 628E8, c'est-à-dire c'est la plaque d'immatriculation de sa voiture, et cette voiture, il s'en va balader en Allemagne. Et voilà ce qu'il dit dans un chapitre, le dernier, je crois, qui s'appelle Berlin-Sodome. Quand nous avons été vicieux, nous autres, nous ne le sommes plus guère, la mode en est passée, nous l'avons été légèrement, gaiement, les Allemands, eux, qui sont pédants, qui manquent de tact et ignorent le goût, le sont, comment dire, scientifiquement. Il ne leur suffisait pas d'être pédérastes comme tout le monde, ils ont inventé l'homosexualité. Où la science va-t-elle se nicher, mon Dieu, ils font de la pédérastie comme ils font de l'épigraphie, ils savent qui a été l'amant de Wagner et de qui Alcibiade et Shakespeare ont été les maîtresses, ils écrivent des livres sur les amours de Socrate et sur celles d'Alexandre le Grand, ils ont relevé sur les vieilles pierres tous les noms de tous les mignons, de tous les pharaons, de toutes les dynasties, pédérastes avec emphase, sodomites avec érudition, et au lieu de faire l'amour entre hommes par vice, tout simplement, ils sont homosexuels avec pédanterie. Allez à Berlin, je vous le dis, allez revoir Berlin, ça vaut le voyage. Donc j'ai parlé un peu de la situation politique, il y a une chose assez drôle. Alors donc, j'ai réédité, oui, il y a eu des grands scandales comme avant la Première Guerre mondiale, donc vous connaissez les scandales d'Oscar Wilde, les procès d'Oscar Wilde. En Allemagne, il y a eu la même chose. D'abord, en 1902, les anecdotes sont drôles, mais parce que c'est le scandale Krupp. Je ne sais pas s'il était ministre, en tout cas, c'est celui qui faisait les armes de guerre en Allemagne.
C'est la dynastie Krupp.
Et la dynastie Krupp et sa fille, c'est appelé Bertha, ça vous dit quelque chose. Là, voilà, je ne sais pas si elle était grosse elle-même, mais bon, c'était le canon. Voilà. Donc, et où il s'en allait à ce moment-là, parce que ce qui est important aussi, c'est de dire que cette libération allemande s'est faite aussi ailleurs. Par exemple, le baron von Gloden, qui aimait bien les pâtres italiens, à la grecque, il vendait des photographies à toute la bourgeoisie et la noblesse de l'époque, en Sicile, à Taormina. D'ailleurs, à Taormina, vous pouvez y aller dans les cafés, on vous vend facilement des photos de pâtres siciliens. Et lui, il est mort simplement en 1933, c'est-à-dire que tout ce qui se passe avant la Première Guerre se prolonge dans Weimar. Mais il y en a qui sont partis. Et il y en a d'autres, par exemple, qui se sont installés en Suisse, mais pour vivre d'une manière différente, pas forcément homosexuelle, mais la nudité, le végétarien, dans une région près de Locarno, où un poète, par exemple, comme Stéphane Georges, est mort, à Minusio. Et il y a, par exemple, un peintre avec un philosophe, ils sont mis dans une villa, et la villa est devenue un musée maintenant. C'est un peu lamentable, c'est-à-dire... Enfin, aujourd'hui, c'est difficilement visible, mais c'est un peu androgyne, c'est surtout intergénérationnel, et on a l'impression que c'est vraiment des gens qui s'intéressaient aux petits écoliers. Mais quand vous y allez, parce que je m'y suis rendu, vous avez donc cette villa avec des messieurs, avec des petits écoliers, mais à la mode bavaroise, avec des chaussettes, des tabliers, etc. C'est vraiment très, très, très curieux. Hirschfeld, Weimar, donc. Weimar, moi, ce qui m'amusait, c'est de commencer Weimar avec ses statues, parce qu'il s'agit des statues de deux écrivains allemands très importants, qui s'appellent Goethe et Schiller. Mais alors, Magnus Hirschfeld, qui voit l'homosexualité partout, enfin, c'est ce qu'on disait, il y a une caricature qui suit, qu'on voit dans la presse, et là, il est marqué, Goethe dit à Schiller, mais lâche-moi la main, il y a le docteur Hirschfeld qui se ramène. Il est là, le docteur Hirschfeld. Le docteur Hirschfeld, c'est un médecin allemand qui fut le premier à étudier la sexualité humaine sur des bases scientifiques. Alors, quand on dit que l'homosexualité a été inventée, comme Foucault dit par exemple, c'est que c'est la science qui a baptisé le mot homosexuel. Mais évidemment que l'homosexuel existe depuis toujours, hein, et que ça donne un certain type. Ce qui est assez bizarre, c'est que l'homosexuel a changé de nom suivant les époques. C'est normal que les gens changent suivant les époques. Mais les femmes changent suivant les époques. On dit toujours une femme. Un homme change suivant les époques, on dit toujours un homme. Mais pour les homosexuels, ça a été très différent. Pour des questions religieuses, jusqu'au XVIIIe siècle, on les a appelés des sodomites par rapport au péché de Sodome. Ensuite, longtemps, même jusqu'au début XXe, on parlait des invertis. Les invertis, c'est un peu plus compliqué parce qu'en fait, quoi ? Soit vous étiez inverti parce que vous étiez, et c'était la théorie d'Hirschfeld et d'Ulrichs, vous étiez une femme dans un corps d'homme. Donc là aussi, je parle de tout le monde, puisqu'en fait, je parle de femmes et d'hommes. Hein. Une femme dans un corps d'homme, et c'est Hirschfeld considérait que c'était ça, mais que c'était pas une maladie. Voilà. Il considérait que c'était une variété parmi d'autres, et il parlait des intermédiaires sexuels, c'est ainsi que s'appellent ces annales, que d'autres appellent des annuaires, mais des annuaires, c'est peut-être l'adresse. Et donc là, ce sont des énormes volumes qui paraissaient tous les ans et qui développaient les théories scientifiques de Hirschfeld, qui étaient très biologiques. Il était avocat, donc il est intervenu pour le procès Krupp, dont je vous ai parlé, en disant bah oui, mais Krupp, il est malade, c'est pas de sa faute, enfin pour le défendre. Mais sa théorie, c'était aussi que tout était biologique et que donc on avait des hormones, plus d'hormones mâles, plus d'hormones femelles. C'était la première fois où on découvrait le rôle des hormones. Lui-même, Hirschfeld, était un bon commerçant. Il vendait du Viagra, parce qu'il est venu du Viagra et du Cialis, je sais plus ce que vous prenez. Donc il vendait des pilules pour l'érection. Il a fait une première revue sexologique, mais celle-là a duré assez longtemps, donc tous les ans. Et c'était aussi littéraire que scientifique, aussi biologique que musical. Et vraiment, c'est une encyclopédie incroyable qu'il faudrait traduire en français. Mais les Français ne s'intéressent pas vraiment à ce qui se passe en Allemagne. Quand j'ai pris des renseignements sur l'homosexualité à Weimar, je vous assure que c'était tout le temps en allemand ou en anglais. En français, c'est assez nul. Alors ce qui était important, c'est qu'on dit qu'il était un des pères fondateurs des mouvements de libération homosexuelle, et son cheval de bataille, c'était donc ce paragraphe 175 qui avait été élargi à tout l'Empire allemand, qui restait d'ailleurs jusqu'en 1994. Et même à un moment, lorsque la RFA et la RDA ont fusionné, eh bien la RFA gardait ce paragraphe 174. C'est après, 5 ou 6 ans après, que ce paragraphe 175 a été complètement aboli. Donc c'est pas si vieux que ça. Donc le cheval de bataille, c'est, pour tout le monde, c'est ce paragraphe 175. Ils fondent un comité scientifique humanitaire. En 1896, Hirschfeld publie sous le pseudonyme la brochure intitulée « Sappho et Sokrate » sur l'amour entre personnes de même sexe. Le 15 mai 1997, il fonde dans son appartement de Charlottenburg avec l'éditeur Max Spohr, l'avocat Édouard Auberck et l'écrivain Franz-Joseph von Bülow et Adolf Brandt, venus avec d'autres personnes de la revue Der Eigene, le comité scientifique humanitaire dont il prend la direction. Le comité sera la première organisation au monde ayant comme but la dépénalisation des relations de nature homosexuelle. Ses membres espéraient obtenir l'abolition du paragraphe 175. La devise du comité, c'était la justice grâce à la connaissance. Per scientiam ad justitiam, si je le dis en latin, c'est que c'est ce qui est